Here's a song that comes from Tanzania.
Galère, galère, bonjour à toutes et tous. Émission Livres et Amis du 12 janvier 2022. Après les voyages sur la Corniche et en Algérie des semaines précédentes, nous revenons cette semaine à une littérature plus littéraire avec un recueil de textes, mi-poèmes en prose, mi-nouvelles, recommandé par Odile. La lecture sera une lecture à deux voix et demie puisque ce recueil paru en 2021 qui s'appelle « Ode » réunit en fait des odes, c'est bien le cas, qui sont des poèmes anciens en principe accompagnés de musique mais qui dans le cas présent sont des petits textes réunis par leur auteur David Van Reybrouck qui ont plu à Odile, qui nous ont plu à nous aussi et que nous vous lirons en alternance, Françoise et moi. Donc l'auteur, David Van Reybrouck, est un Belge néerlandophone. Certains de ses textes sont rattachés au contexte belge. Nous les avons plutôt laissés de côté, mais d'autres sont beaucoup plus généraux ou au contraire plus personnels et donc universels. Plein d'enthousiasme ou de doute, en général d'amitié ou de fraternité. Ils ont été écrits entre 2015 et 2018 et traduits par Isabelle Rosselin. Commençons avec le départ, si je puis dire, le départ pour le voyage, ou plutôt l'ode au trajet nocturne en voiture. Vous en êtes arrivé au point où vous ne voyez plus aucune voiture, ni devant ni derrière. Le rétroviseur, une vitre noire. L'autoroute devant vous, un asphalte noir. Vous conduisez plein phare et prenez une profonde inspiration. Combien de fois avez-vous emprunté ce chemin en voiture ? L'autoroute d'Amsterdam à Bruxelles, ou l'autoroute de Lyon à Marseille, ou l'autoroute de Paris à Lille. Pour un inconditionnel du train, vous aimez singulièrement conduire, surtout la nuit. Uniquement la nuit, en vérité. Le jour, les tracas, l'agitation, la mauvaise prose. La nuit, la poésie. Le ronflement du moteur, vous ne l'entendez plus. L'enchaînement de vos pensées, vous ne le suivez plus. Vous nagez à travers le pays assoupi. Vous nagez et vous pensez à votre enfance quand vous vous endormiez sur la banquette arrière à côté de votre frère aîné et vous réveilliez seulement en entendant la voix de votre mère, sa voix chantante. On est arrivé à la maison. Votre père éteignait les phares et le moteur. Vous gardiez les yeux fermés. Vous n'aviez pas envie que ce soit vrai. Vous vouliez rester caché dans le repli de la nuit. Vous nagez. Vous pensez. Pensez à la conférence que vous venez de donner, aux amis que vous avez vus, à l'éditeur à qui vous avez parlé, à l'ancienne amoureuse avec qui vous avez dîné, à ses éclats de rire. Au moment où vous vous êtes serré dans les bras. Les amours ne passent jamais, vous dites-vous. Ils prennent une forme, tout au plus, une autre forme. La radio diffuse une chanson indolente et sensuelle. Quand elle est finie, vous n'avez plus envie d'écouter que du Satie ou du Philippe Glass. Vous éteignez la radio et le lecteur CD et vous tamisez l'éclairage du tableau de bord. Vous n'avez même pas ventousé le GPS sur le pare-brise. Vous connaissez la route. La conduite sans écran est plus tranquille, plus libre surtout, plus obscure aussi. À votre droite, une étendue d'eau noire. Au loin, les petites lumières d'une raffinerie. À partir de maintenant, l'autoroute est nettement plus vide. Ce sera le cas jusqu'à Anvers. Les plats pays, la nuit, ressemblent à la campagne française le jour. Un vide infini, couvert de plantations. Ou des pays d'Allemagne, des routes, parfois une ville. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? Les routes ou les villes ? Wir fahren auf der Autobahn. Kraftwerk. Bon, ça doit être beaucoup moins mélodieux. Mm-hmm. Wir fahren auf der Autobahn. Vous vous demandez si l'émission diffusée autrefois après minuit à la télévision publique allemande existe encore. Die schönsten Autobahnen Deutschlands, les plus belles autoroutes d'Allemagne. Des images filmées depuis une voiture qui roule. Comme si vous étiez à l'intérieur de Coblence à Hanovre et regardiez à travers le pare-brise. De temps en temps, vous voyez une main droite anonyme sur le volant. Vous pouviez acheter les cassettes vidéo. Ah, vous pensez à demain, à ce que vous devez faire, à aujourd'hui, à autrefois, à la mort peut-être, comme si souvent. Vous conduisez et vous pensez à Beckett. I have never been on a road to somewhere. I have just been on a road. Ah oui, on est sur la route, pas forcément la route pour quelque part, mais sur la route. Alors, la parole à Françoise pour une autre nouvelle, un autre poème en prose. À qui va-t-elle s'adresser? Nous le saurons à la fin.
Ode à nos dirigeants religieux.
Ah ben, on le sait tout de suite.
Alors. Non. Bon. Je l'ai lu. Lire les journaux, suivre les débats, cliquer pour ouvrir les écrits que partagent les amis chaque jour. Parfois en éprouver une grande fatigue, être en manque de quelque chose, mais de quoi? De long terme, de bien public, le jeu politique de chaque jour est rarement visionnaire. D'autre chose? De morale, me dis-je, tout particulièrement. Je constate si peu de morale dans la manière dont nous gouvernent nos dirigeants politiques en Europe. Merkel? Oui, peut-être. Mais qu'en déduire de l'état de notre continent quand les paroles morales les plus élevées de ces dernières années se réduisent à une petite phrase banale de quelques mots? On va y arriver. Il faut croire que le continent où a été élaborée il y a 2 siècles la première déclaration universelle des droits de l'homme se satisfait d'un simple « nous allons trouver une solution ». De nos jours, la région du monde où il n'y a pas si longtemps, après le plus grand bain de sang de l'histoire, la plus grande opération de paix qui ait jamais existé, a commencé, l'unification de l'Europe, est surprise lorsqu'au sein de cette Europe unifiée, quelqu'un ose encore prononcer un discours éthique. Serait-ce de la gêne d'une génération de politiciens qui a grandi avec le postmodernisme et recule devant la propagation trop explicite de trop grands idéaux? C'est possible. En même temps, j'ai la nostalgie des discours effrontément moraux d'un Vaclav Havel ou d'un Nelson Mandela dans les années 1990. Ce n'était pas de l'emphase à l'époque, mais une urgence historique. Oui, me direz-vous, au moment de la chute du mur et à la fin de la période de l'apartheid, on avait bien le droit d'ouvrir le robinet des grandes valeurs. Mais où est la différence aujourd'hui? La question des réfugiés, le réchauffement de la terre, les attentats terroristes, la crise bancaire, les paradis fiscaux, les inégalités croissantes, l'avenir de la démocratie, le sort de l'Europe? Ne vit-on pas des temps historiques? L'Union européenne traverse la pire crise qu'elle ait connue depuis son existence. Peut-être que l'ensemble du projet va s'effondrer. Mais combien de discours réellement historiques avons-nous entendus depuis? Combien de plaidoyers visionnaires? Après le Brexit, Frans Timmermans et Guy Verhofstadt ont parlé avec flamme au Parlement européen, certes. Mais on attend encore des discours moraux conséquents, comme ceux de dirigeants nord-américains tels qu'Obama ou Trudeau. On attend une vision audacieuse qui, en ces temps turbulents, défende une cohabitation pacifique et durable d'aujourd'hui. Car c'est bien de cela qu'il est question, une cohabitation pacifique et durable. Faisons un test. Qui a prononcé les paroles suivantes? Le drame de l'immédiateté politique, soutenu aussi par des populations consuméristes, conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements ne prennent pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui peuvent affecter le niveau de consommation ou mettre en péril des investissements étrangers. La myopie de la logique du pouvoir ralentit l'intégration de l'agenda environnemental au vu large dans l'agenda public des gouvernements. Et qui a parlé déjà en ces termes inspirés? Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d'être bon et honnête. Depuis trop longtemps, déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi, de l'honnêteté. L'heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Vous avez deviné ? La réponse était dans les deux cas, le pape François. Il ne s'agit en l'occurrence que de quelques paragraphes de son encyclique paru l'an dernier, Laudato Si, peut-être le texte catholique le plus important depuis un siècle. Ce genre de discours fondamental ne semble plus avoir sa place dans la politique européenne d'aujourd'hui. Apparemment, nous avons entièrement fait cadeau de ce débat sur les normes et les valeurs aux politiciens populistes. Encore une question test. Qui a dit ce qui suit ? Certains jours, je pense que ce serait mieux qu'il n'y ait plus aucune religion. Toutes les religions et toutes les écritures saintes recèlent un potentiel de violence en soi. C'est pourquoi nous avons besoin d'une éthique séculière au-delà de toutes les religions. Besoin d'indices supplémentaires ? La différence entre éthique et religion ressemble à la différence entre l'eau et le thé. L'éthique et les valeurs humaines qui se fondent sur un contexte religieux ressemblent plutôt au thé. Le thé que nous buvons est constitué en majeure partie d'eau, mais contient également d'autres ingrédients, tels des feuilles de thé, des épices, peut-être un peu de sucre, et tout au moins au Tibet, une pincée de sel. C'est ça qui le rend plus substantiel et durable et fait que nous souhaitons en consommer tous les jours. Mais indépendamment de la façon dont le thé est préparé, son composant principal reste l'eau. Nous pouvons vivre sans thé, mais pas sans eau. C'est le Dalai Lama, dirigeant religieux du bouddhisme tibétain, qui s'exprimait ainsi l'an dernier à l'occasion de son 80e anniversaire. Et il a ajouté « J'attends avec joie le jour où les enfants apprendront les fondements de la non-violence et de la résolution pacifique des conflits, à savoir de l'éthique séculière. Je suis toujours aussi athée qu'autrefois, mais je trouve ces récents propos de dirigeants religieux plus sensés, impressionnants et inspirants que les discours de dirigeants politiques que j'ai quotidiennement sous les yeux. Quelle mission que de vivre à cette époque, mais quel privilège d'avoir quelques contemporains formidables. Je pense que ces dernières années, le pape et le Dalai Lama, de Desmond Tutu, Ismail Serra Geldin, Michael Lerner et Karen Armstrong m'ont plus appris que n'importe quel politicien européen. Desmond Tutu a été le premier archevêque noir de l'Église anglicane en Afrique du Sud. Il a présidé la commission Vérité et Réconciliation après la chute du régime de l'apartheid et a écrit à ce sujet « Il n'y a pas d'avenir sans pardon. Comment se réconcilier après l'apartheid ?» un des livres les plus importants que j'ai jamais lus. Ismail Serra Geldin est directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, peut-être le centre de recherche le plus important du monde arabe. Ce musulman pratiquant est parfois décrit comme l'homme le plus intelligent d'Égypte. Depuis que je l'ai entendu parler l'an dernier de la démocratie en islam lors d'une conférence à Alexandrie, j'espère que de plus en plus de gens auront l'occasion de le découvrir. Michael Lerner est rabbin à Berkeley. À l'enterrement de Mohamed Ali, un musulman autoproclamé de surcroît, il a tenu un discours qui a fait le tour du monde. Accorder de la valeur à sa propre religion ne signifie pas mépriser celle des autres. Karen Armstrong est une théologienne britannique et une religieuse retournée à la vie laïque. Elle a montré de façon très convaincante dans son travail que la compassion est la valeur centrale de la judaïté, la chrétienté, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme et encore tout un tas de religions. Sa charte de la compassion, rédigée avec des dirigeants religieux du monde entier et à présent signée par 3 millions de personnes, n'est rien de moins qu'une constitution morale pour le monde en ces temps de globalisation. Cet été, j'ai eu le privilège d'être son hôte pendant une journée entière à Londres pour une série d'interviews du quotidien flamand, Der Standard. Elle a dit alors, Les grandes traditions religieuses d'aujourd'hui ont toutes commencé en des temps de guerre et d'agitation politique. La règle d'or selon laquelle il ne faut pas faire à un autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse a été inventée indépendamment de toutes ces traditions. Ce n'était pas parce qu'une foule de gens gentils trouvaient l'idée bonne, mais parce que quelques esprits pratiques ont compris qu'autrement, les gens se détruiraient mutuellement. Au moment où nous risquons encore une fois de nous détruire mutuellement, cela ne peut pas faire de mal d'écouter de nouveau ce que les représentants des traditions séculaires ont à dire. Le débat sur l'avenir d'un monde mondialisé est trop important pour laisser les dirigeants élus l'arbitrer. Le dirigeant politique s'occupe au moins des 4 années à venir, le dirigeant religieux au moins du millier d'années passées. Nous avons besoin de toute la sagesse disponible.
Toute la sagesse disponible, oui, c'est un beau programme. Je ne sais pas qui, en effet, nous permettra de le suivre. Nous allons d'abord nous pencher sur quelque chose de plus artistique, moins politique, en lisant... Oui, alors là, il y a des gens qui sont en train de toucher à mon micro.
Faut que tu parles en face.
Donc, en nous penchant sur le texte qui s'intéresse, lui, à Anne-Thérèse de Kersmacher, la danseuse et surtout chorégraphe connue. Un spectacle de danse qui dure 9 semaines, c'est possible ? Absolument. La Belge Anne-Thérèse de Kersmacher compte depuis des années parmi les meilleures chorégraphes du monde, mais ce qu'elle a réalisé avec sa production Work, Travail, Arbeit, était d'une beauté inégalée. J'avais lu que sa nouvelle création de danse était un simple remaniement de Vortex Temporum, une production pour une grande salle que j'avais déjà vue aux Ingel à Anvers. Un travail brillant, sans aucun doute, mais fallait-il que j'aille voir comment elle avait transformé ce spectacle en une exposition. De Kersmacher est si industrieuse avec sa troupe de danse Rosas, en 30 ans, 40 productions, dont j'ai vu la moitié, que je ne peux pas suivre toutes les voies latérales. Puis, j'ai reçu un SMS d'une amie. Elle était au Hills, le centre d'art contemporain de Bruxelles, où était présenté Work, Travail, Arbeit. « Bluffant !» écrivait-elle. 3 jours plus tard, nous étions assis ensemble sur le sol en béton du Wills. L'ami voulait revoir la représentation. Quelques heures plus tard, j'allais comprendre pourquoi. Combien de fois a-t-on l'occasion d'assister à une œuvre d'art et d'avoir, pendant le spectacle, une prise de conscience ? Ici, il se passe quelque chose. Ici, se déploie rien de moins qu'un chef-d'œuvre. La vieille usine de Wills, une ancienne brasserie, était totalement dépouillée. Il n'y avait ni scène ni éclairage, seulement des murs blancs, des colonnes blanches, la lumière grise de ce jour-là. On avait sous les yeux, transposé dans un contexte industriel, le poème « Chambre totalement blanche » de Gerrit Couvenard. Le vide qui devient espace. Si nous peignions une dernière fois la chambre en blanc, une dernière fois la chambre totalement blanche. Un violoniste approcha. Solo, grinçant, tâtonnant, pas beau, mais magnifique. Le son du bois et du crin qui se répercute sur le vieux béton. Quelques minutes après, un danseur. Il entre en silence. Chemise blanche, pantalon blanc, chaussures fluorescentes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, aucune idée. J'ai reconnu le langage formel d'Anne-Thérèse de Kersmacher. Le tronc qui s'incline en avant, la tête qui regarde par-dessus l'épaule, la main qui guide le corps. Mais jamais je ne l'avais vu d'aussi près. C'était familier et nouveau à la fois. Plutôt dénoué. La représentation initiale, Vortex Temporum, durait 1 heure tout au plus. Beaucoup de danses avaient lieu simultanément. Mais ce remaniement durait 9 heures. Les lignes distinctes se succédaient, si simples, si pures. Et comme le musée n'était ouvert que 7 heures par jour, chaque jour commençait différemment. Il fallait 9 jours pour qu'un cycle soit terminé. L'exposition entière durait 9 semaines. Work, travail, Arbeit doit être la première exposition de danse au monde qui dure toute une saison, tandis que la lumière change lentement. Les interprètes, 7 danseurs, 6 musiciens et un chef, donnaient la représentation même quand il n'y avait personne. C'est une vague, me suis-je dit. Une vague qui dure un printemps. Les spectateurs, elle, moi, les autres, nous faisons partie de la mer. Nous flottons. Le violoniste, il est debout, derrière chaque danseur. Ils gravitent lentement, l'un autour de l'autre, en se tournant le dos, et la différence s'estompe. Le musicien se meut avec le danseur suit la musique. Danse et son se confondent toujours chez de Kersmacher, et ce depuis sa première création, Phase, en 1982, sur une musique de Steve Reich. Une étude rigoureuse de la partition constitue la base du mouvement. Et à présent, elle part de Vortex Temporum, du compositeur français Gérard Griset. Et c'est un des morceaux de musique classique les plus importants de ces 40 dernières années. C'est connu comme l'apogée de la musique spectrale, un courant qui, dans son approche, ne considère pas tant la musique comme une mélodie, une tonalité ou un rythme, mais plutôt comme un son fluide qui évolue à travers le temps. Griset disait lui-même à son propos « Les notes deviennent un timbre, un accord devient un complexe spectral et un rythme est transformé en une tempête de longueur imprévisible. » Il comparait sa composition à un bateau qui cherche à naviguer de A à B et doit sans cesse rectifier son cap. Dans cette représentation aussi, la musique est un jeu de vagues, tantôt courte et agitée, tantôt ample et paresseuse. « La musique contemporaine parle de notre époque », a dit Anne-Thérèse de Kersmacher dans une interview. « Mais elle a souvent du mal à attirer un large public. Je voudrais l'exhumer et la mettre à disposition. Non que je veuille instruire le public en lui faisant connaître une musique que les gens ne trouvent peut-être pas belle à la première écoute. J'essaie de chorégraphier mon expérience de cette musique. Je veux en montrer la qualité cachée pour la danse. » Il faut une certaine imagination pour considérer que les tapis de sons, vagues, ténus, de la musique spectrale, sont dansables. Et pourtant, ces 7 danseurs suivent chacun un des instruments. Piano, alto, violon, violoncelle, flûte, clarinette. La partie de piano est si riche qu'il faut même un danseur distinct pour la main gauche et un autre pour la main droite. Pas pour extérioriser la partition, mais pour l'intérioriser, l'incarner. Et nous, spectateurs, nous flottons plus loin, nous flottons dans le vaste espace que cette musique ouvre et explore, comme une nuit dans l'eau sous les étoiles. Et nous sommes, oui, que sommes-nous ? Quelque chose entre algues et chagrin, du bois d'épave blanchi par le sel. Un autre danseur arrive. Le violoniste se rend dans la pièce adjacente. Un solo, un duo, un passage synchrone. Voilà d'autres danseurs, encore. Le temps devient fluide, je ralentis, je me réconcilie avec la quête. Le groupe se disperse. Les interprètes suivent un réseau de cercles qui sont dessinés sur le sol et qu'ils redessinent de temps en temps avec un bâton de craie et une ficelle. Vortex, tourbillon, spirale ascendante. Le langage des formes est d'une richesse prodigieuse. Il se promène, tourne, trébuche, tombe, boite. Puis cela recommence, il s'incline, tend la main, s'étire, se relâche. Jamais d'acrobatie, toujours subtile. Même lorsqu'on fait rouler le piano à queue, tandis que le pianiste joue, les tons sombres, profonds résonnent, le bois noir brille. Cela reste suggestif et lent. Une musique coriace, pénible, puisse respirer aussi profondément, qu'un art abstrait qui n'a pas envie de quoi que ce soit puisse être si plein, qu'une danse cérébrale fondée sur des schémas géométriques puisse toucher autant. Anne-Thérèse de Kersmacher a horreur du pathétique. Elle a dansé sur 8 siècles de musique, de moyenâgeuse à minimaliste, de Jean-Sébastien Bach à John Baez, mais elle a toujours laissé de côté les compositeurs romantiques du XIXe siècle. réservé et rigoureux, son art est ainsi. Voici du Roscoe sous forme de corps. Les musiciens font partie d'Ictus, le principal ensemble de musique contemporaine de Belgique, qui joue aussi pour d'autres groupes de théâtre ou de danse. De Kersmaeker leur a demandé s'ils voulaient bien travailler cette œuvre extrêmement ardue de Griset, et aussi s'ils pouvaient jouer les deux premières parties sans partition et en fait aussi sans chef d'orchestre de préférence. Était-ce possible? Et étaient-ils prêts à bouger aussi? Jean-Luc Plouvier, le pianiste d'Ictus, trouvait une énigme féconde. Il continuait de planer entre chorégraphie et composition. Comme en amour, le malentendu est aussi la norme. Chacun donne ce qu'il ne possède pas. Nous sommes encore assis par terre. À 1,5 mètre de moi, deux danseurs, penchés l'un devant l'autre, totalement immobiles, leurs têtes rapprochées. Ils viennent de danser un duo invraisemblable, de plusieurs minutes. Nous voyons battre leurs veines, nous les entendons haleter. De leur front tombent quelques gouttes sur le sol gris clair, comme s'ils perforaient le béton de leur sueur sombre. Chacun donne ce qu'il ne possède pas. Une autre musique.
Ode à Leonard Cohen. La mort de Leonard Cohen n'est pas la mort d'une star de la pop simplement, mais d'un ami. Je connais peu d'artistes qui ont été capables d'établir avec tant de personnes une relation aussi intime. Leonard Cohen était proche de chacun d'entre nous. Quand nous étions au lit ou quand nous traversions les Alpes, quand nous étions amoureux et pas l'autre, quand il y avait de l'amour, puis plus rien. Les accords de Leonard Cohen s'entremêlaient avec la vie que nous menions, avec les journées que nous essayons de tresser ensemble pour que le tout ressemble à une vie. Comment se peut-il qu'une personnalité publique aussi influente ait pu être si proche? Parce qu'il émergeait de tout le tumulte de la musique pop et nous servait de guide dans notre existence tâtonnante? Oui, mais alors un guide qui ne connaissait pas non plus le chemin. Il ne portait pas de flambeau. Il indiquait tout au plus « The crack is everything ». Il était plus un frère aîné qu'un père. Quelqu'un qui avait toujours exploré plus de recoins de l'existence que toi. Il venait de l'Ancien Testament et du Canada. Dans ses chansons, il parlait de la guerre et du judaïsme, de la langue et de l'adieu et du bouddhisme et du désir. Prends ce désir de ma langue et de toutes ces choses solitaires qu'ont un jour fait mes mains, dit-il dans « Texas Longing ». Laisse-moi voir ta beauté lorsqu'elle est en ruine, comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes. A-t-on jamais mieux exprimé un désir rempli de désespoir? Oui, peut-être. Dans le texte de « If it be your will », par exemple, « Si tel est ton désir, qu'une voix soit sincère, je chanterai pour toi de cette colline brisée. » Les toutes dernières paroles de chansons qu'il a écrites sont parues il y a quelques semaines seulement. Je te laisse lire l'anglais, là.
I wish there was a treaty we could sign. It's over now. The water and the wine. We were broken then, but now we are borderline. And I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. J'aurais souhaité la paix.
Si seulement il y avait un traité entre ton amour et le mien, mais tout est fini, l'eau et le vin. Comment ne pas sentir sa gorge se serrer en entendant des mots pareils? Ces textes étaient des poèmes, visiblement influencés par la poésie du grand moderniste espagnol Federico García Lorca, dont il a un jour mis en musique « Pequeño vals viennes », petite valse viennoise, et qu'il a fait connaître dans le monde entier sous le titre « Take this waltz ». Lorca, fusillé pour son homosexualité pendant la guerre civile espagnole, a écrit une poésie aussi palpable qu'insaisissable. Commencer par le concret, dérailler vers l'abstrait, se relever plus riche. C'est aussi ce que font les vers de Leonard Cohen. 15 albums en 50 ans, un demi-siècle de fouilles linguistiques, accompagné de sons sobres, de guitare et de chœur. La quête de Leonard Cohen oscillait entre la peau et le silence, entre le désir de la beauté d'un corps aimé et toujours présent et le désir de silence dans un monde rempli de bruit. Peut-être ces chansons étaient-elles avant tout des incitations au silence, des esquisses de mutisme, des désirs de ne pas désirer. Dans le cahier de photos d'une biographie qui lui est consacrée, figure celle si connue où Leonard Cohen est assis à un bureau, en Grèce, je crois, avec une magnifique femme nue sur le lit. Sur la page suivante, il médite, assis en tenue de bouddhiste zen. Leonard Cohen était à la fois esthète et ascète. Cela aussi, c'est la quête du nu, être en chemin, aimer, se détacher. La mort de Leonard Cohen n'est pas un choc. Il a toujours été vieux, même quand il était encore jeune. À la mort d'un vieil ami, souvent la reconnaissance l'emporte sur le chagrin. D'avoir eu l'occasion de partager cela, dans notre courte vie, tant de tendresse, tant de véracité. Maintenant, c'est à nous de prendre la relève. If it be your will that the voice be true, from this broken hill, I will sing to you.
Nous eh bien allons... oui, il va chanter pour nous.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
C'était Leonard Cohen et nous allons passer à l'ode au plus bel être humain. C'était il y a un an et demi et je ne l'ai connu qu'une semaine. Nous nous sommes rencontrés le jour de mon 42e anniversaire et il m'a donné le cadeau le plus curieux qui soit, peut-être parce qu'il ne savait pas que c'était mon anniversaire. Un petit livre avec à l'intérieur les noms, les photos, les biographies et les derniers mots de tous ces jeunes Tibétains qui, ces dernières années, se sont immolés par le feu pour protester contre l'occupation chinoise. Un par page. Il y en a à présent plus de 100, a-t-il dit avec un sourire triste. Deux de mes neveux l'ont fait. Il m'a montré les pages. Et je les regardais sans rien dire dans un grand théâtre de verre extrêmement beau donnant sur le fjord. Au loin, des sommets montagneux recouverts d'une fine couche de neige poudreuse. On était à Reykjavik, on était en septembre. Nous étions là pour participer au congrès annuel de peine internationale, l'association mondiale d'auteurs qui défend la liberté d'expression. Il était, depuis peu, vice-président du département de peine pour les écrivains tibétains en exil. J'étais présent en tant que président de peine Flandre. Peu d'associations me sont aussi chères que peine, mais j'ai décidé ce soir-là d'aller manger seule. Il y a souvent tant d'agitation pendant les congrès que je préfère manger seule, surtout le jour de mon anniversaire. Je me suis nichée dans un recoin d'un restaurant intime plongé dans la pénombre et j'ai commencé, après avoir commandé, à lire sa brochure. Des jeunes de 19 ans étaient descendus dans la rue, pas pour déclencher des émeutes, mais pour s'asseoir dans la position du lotus, s'asperger d'essence et de silence. 42 ans à Reykjavik, ai-je pensé. Les jours suivants, le congrès s'est déroulé comme se déroulent les congrès, parfois passionnants, parfois d'un ennui insondable, parfois spirituel. Je voyais Lobsang toujours occupé avec un tas de gens. Il écoutait, parlait, sortait un autre exemplaire de son livre, du sac suspendu à son épaule, échangeait des expériences et des adresses mail. Il était infatigable et pourtant très calme, très paisible, un vieil esprit dans un jeune corps. Pendant les pauses, nous allions chercher un sandwich à un comptoir et nous buvions du thé ensemble. J'avais 8 ans de plus que lui, mais je me sentais si jeune à côté de lui, si insignifiant aussi. Pas certain que c'est ce qu'il aurait voulu. Je suppose que je n'étais pas le seul. Il produisait une impression inoubliable sur tous ceux qui lui adressaient la parole. Son visage exprimait la mélancolie, mais sa tristesse ne l'avait pas rendu amer. Il avait été moine bouddhiste au Tibet, avait traversé l'Himalaya à pied, avec une cinquantaine d'autres personnes en tennis. Certaines étaient mortes en route, de froid ou sous les balles des tireurs d'élite chinois, pour se rendre dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, auprès du Dalai Lama. Cela faisait près de 20 ans qu'il n'avait pas vu sa mère ni les autres membres de sa famille. Certains étaient morts à présent. En fait, son pays, son amour, ses neveux, tous perdus. À Dharamsala, il faisait des recherches sur les textes en vieux tibétain et se mobilisait pour le droit à la liberté d'expression. Et il était exceptionnellement doux. Pas seulement gentil ou sympathique, ce qui ne peut être qu'à l'extérieur, mais empli d'une sincère commisération, un mot que nous utilisons trop peu souvent en néerlandais. La compassion, sans doute, de tout à l'heure. La liberté d'expression est un bien immense. Elle s'applique aussi aux propos qui peuvent offenser, choquer ou déranger, comme l'a affirmé la Cour européenne des droits de l'homme dans un jugement important. Mais ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'on est obligé de s'en servir. La commisération exige souvent plus de courage que la contre-attaque. Jamais les expressions de haine en ce monde ne s'apaisent par la haine, a dit Bouddha, il y a 25 siècles. Mais elles s'apaisent lorsqu'on n'éprouve pas de haine. C'est une loi séculaire. Après le congrès, nous avons voyagé dans les environs pour découvrir quelques sites incontournables à l'intérieur des terres. Je n'avais pas eu envie de participer à l'excursion obligée du congrès. Lobsang l'avait trouvé trop cher. Son voyage depuis le nord de l'Inde jusqu'en Islande avait déjà coûté une fortune. Nous nous sommes donc mis en chemin dans une vieille voiture de location que j'avais dégotée. Nous avons quitté la ville et vu les chutes d'eau, la lave, la mousse, les geysers et des souvenirs. Nous circulions en voiture, nous nous promenions à pied, nous mangions quelque part en route et dessinions des cartes de nos pays au dos de nos sets de table. Nos conversations portaient sur la politique et la poésie, l'amour et l'amitié, la littérature et la liturgie. Et nous savourions le paysage. La nature était vraiment époustouflante. Nous ne parlions pas beaucoup lorsque nous contemplions d'infinis paysages, d'une infinie beauté. Et moi, gratitude, douceur. Eh oui, la terre, c'était cela aussi. En février dernier, son corps a été retrouvé sous un viaduc en construction à Delhi. Il s'est avéré qu'un moine tibétain, avec lequel il travaillait, à une traduction, l'avait poignardé. Jalousie, passion, élimination politique commanditée par la Chine, meurtre d'un tueur à gages. L'assassin en question s'est suicidé, aussitôt après, en se tranchant la gorge avec le même couteau qu'il venait d'utiliser pour frapper son ami. Mon ami. Tout ce qu'il me reste de Lobsang Shokta est l'écharpe en soie blanche, la kata blanche, qu'il m'a donnée des deux mains à Reykjavik. Et non, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il me reste est le souvenir de sa lumière. Il transportait tant de lumière avec lui. Il transportait tant de lumière.
Ode à l'autostop. Septembre sans les pommes, les noix et le vague à l'âme. J'ai de nouveau 16 ans et mon sac à dos pèse toujours autant de kilos. Mon père s'en va et je lève la pancarte sur laquelle j'ai inscrit au feutre vert « Lille ». Ce dernier point a fait l'objet d'une discussion chez nous. Mon père trouve que j'aurais dû écrire « Richtel ». Sinon, pourquoi cette ville aurait-elle un nom flamand, mon petit gars ? J'ai répondu que pas le moindre français ou hollandais ne me prendra parce qu'eux ne savent pas que l'endroit a un deuxième nom. Chez nous, la question linguistique ne connaît pas de congé estival. Finalement, je suis pris par un gros ouest flamand, sans doute analphabète, qui baisse poussivement sa vitre. Les boutons n'existaient pas encore. Et qui, en se penchant au-dessus du siège du passager, me demande essoufflé, les joues rouges et le visage en sueur. « Où que tu vas, toi ?»« En Bretagne, » je lui réponds. Et ce n'est même pas un mensonge. Je veux voir de mes propres yeux les dolmens et les menhirs de Carnac. Un mois plus tard, je commence des études d'archéologie. Le chauffeur me conduit jusqu'à la frontière française et sur le parking près du bureau de la douane, je suis pris assez vite en stop par un chauffeur routier qui se rend directement en Normandie. « Cela n'a rien d'excitant, me dis-je, tout va trop vite. » Mais quand nous sommes en route, je constate que mes craintes n'ont pas lieu d'être. Par bonheur, l'homme, un fumeur invétéré, ne dépasse pas les 90 à l'heure et il est du genre revêche, monosyllabique. Son briquet parle plus souvent que sa bouche. Je roupie par intermittence une bonne partie du trajet à travers le nord de la France et quand, dans un moment d'éveil, je lui demande ce qu'il transporte exactement à l'arrière de son camion, il me répond avec force nicotine « des cercueils ». Le soir, je dors dans une sorte d'auberge de jeunesse, dans une sorte de hameau. J'ai parcouru les derniers kilomètres à pied. Il n'y a pas âme qui vive dans la rue, pas de taulier dans l'établissement, mais je tombe sur deux clients égarés, un Japonais qui fait le tour du monde et un Africain qui cherche du travail, un Camerounais, si je me souviens bien. Tous les trois, nous ferons la cuisine et mangerons ensemble. Le Japonais m'apprend à découper un concombre à l'oriental, en frottant très longtemps sur le tranchant d'extrémité, jusqu'à ce que de la mousse s'en dégage, lui non plus ne sait pas quel est l'intérêt de la manœuvre. Le Camerounais raconte des histoires truculentes et exige que je les traduise aussitôt en anglais pour notre semblable asiatique qui au mieux ne les comprend pas et qui, lorsqu'il les comprend, émet un hennissement épouvantable. Je me dis « Regardez-moi assis là, pour la première fois seul en voyage, fraternisant dès le premier soir avec des représentants de deux autres continents, attablés sous une même ampoule électrique. Je ne m'attends pas à recevoir un an plus tard une carte postale de ce Japonais énigmatique, ni à m'apercevoir le lendemain au réveil que le sympathique Camerounais a non seulement déménagé à la cloche de bois, mais aussi emporté toutes mes provisions dans le frigo. Pendant 3 semaines, je me promènerai et ferai du stop en Bretagne. Je faisais souvent du stop à l'époque. Pour me rendre à Paris, bien sûr, à la Documenta à Cassel, pour traverser l'Irlande. J'ai fait du stop après les examens de la fin de mes études secondaires pour aller à Gand, à Anvers, à Bruxelles, visiter des expositions d'art contemporain. J'ai fait du stop avec mon immuable compagnon d'escalade, un nombre incalculable de fois, en direction des Ardennes avec un sac à dos rempli de cordes, de mousquetons et de poudre de magnésium. Je n'écrivais à l'époque que de la poésie et des journaux intimes, mais chaque fois que je me retrouvais au bord de la route, je prenais la décision d'écrire un livre sur l'autostop. Je composais dans mon esprit des chapitres entiers de mon guide pratique de l'art noble de l'autostop. La pancarte, taille, caractère des lettres, nom de lieu. L'emplacement, visibilité et distance de freinage. Dimanche, jour de merde. J'avais toute mon argumentation prête. Le short, avantages et inconvénients. J'étais déjà à l'époque une personne désespérément nuancée. J'imaginais des annexes et des tables des matières à n'en plus finir. Cela ne faisait aucun doute. Avec mon ouvrage de référence, le stop redeviendrait un réel plaisir, un métier supérieur, une noble occupation. Et pendant ce temps, je restais là à attendre en vain, jurant tant que je pouvais une personne avec une pédale de frein. Naturellement, ce livre n'a jamais vu le jour. L'aventure ne se laisse pas coffrer par un numéro ISBN. En plus, les chemins de fer belges ont lancé vers cette époque le GoPass, un billet de train pour 10 trajets qui a connu un succès exceptionnel et permettait à des jeunes de voyager à travers tout le pays pour le prix de quelques bières. Je crois que vers cette époque, on a réduit les bourses d'études aux Pays-Bas et essayé de faire passer la pilule avec une carte annuelle pour les transports publics. Cela a plus ou moins sonné le glas du stop dans les plats pays. Puis Marc Dutroux et Oussama Ben Laden ont suscité chez des générations entières de parents la ferme conviction que le monde extérieur, grand et libre, ne valait rien. C'est environ à cette époque que la pompe à bière, le home cinéma et la machine à expresso ont fait leur apparition. Au lieu d'une vie publique dans les bistrots, les cinémas ou les cafés, on restait entre soi à la maison, tandis que la salle de bain se mettait à ressembler de plus en plus à un centre de bien-être privé. La rue commerçante, l'espace public qui de tout temps devait continuellement dégager une impression festive de sécurité insouciante, ne pouvait plus produire cet effet que par le déploiement d'une armée d'agents de sécurité devant chaque porte, des malabars inexpressifs avec un pot entier de gel dans les cheveux et un fil téléphonique torsadé à l'oreille. Il fallait être téméraire, idiot ou dans le meilleur des cas un pauvre type pour lever encore le pouce sur la bretelle d'accès à l'autoroute.
On va passer à un autre genre de plaisir. Merci. On passe le livre en même temps. Et donc, je vous lis L'ode à la tapisserie de Bayeux. Le plus bel objet d'Europe est une broderie. Pas une lampe design, un reliquaire, une tiare ou une Citroën DS, mais une broderie. Enfin, pas n'importe quelle broderie. Elle fait 70 mètres de long sur 50 cm de haut et elle est suspendue en Normandie, une région où l'on fabrique le meilleur beurre du monde, mais après ça, c'est tout. Il y a quelques années, j'avançais à petits pas parmi les hordes de visiteurs dans la pénombre le long de cette toile mondialement connue. Confectionnée après la bataille de Hastings en 1066, elle est tout simplement stupéfiante. Je retardais la queue, je crois. Pourtant, je ne voyais qu'une fraction des 626 personnes, 202 chevaux, 55 chiens, 49 arbres et 41 bateaux. Et en haut et en bas, cela grouillait d'animaux fabuleux. La broderie est un travail de virtuose. La narration est à couper le souffle. On croirait vivre de très près un fait historique qui s'est produit 1000 ans plus tôt. On croirait suivre en direct le récit de cette unique journée, le samedi 14 octobre 1066. On croirait écouter au coin du feu un témoin privilégié, un survivant qui, en plus, s'avère un formidable conteur. Près de 10 000 guerriers prirent part à cette bataille décisive dans le sud de l'Angleterre. Guillaume le Conquérant était parti avec 700 bateaux de Normandie pour vaincre le roi anglo-saxon Harold et devenir lui-même roi d'Angleterre. Cette toile raconte le tout. Œuvrons à son apothéose avec solennité, animation, maîtrise. Les prémices du conflit, la délibération, l'embarquement, la traversée, le festin. Et puis, le piétinement des sabots, le cliquettement des arbres, des armes, le sifflement de milliers de flèches, les hurlements, les pleurs, les chevaux s'ébrouant, hennissant, les cris de détresse, les espadons, c'est-à-dire les épées, les blessures, les décapitations, les sections de bras, le sol imprégné de sang. Ce fut horrible, ce fut insensé, et on en frémit encore. Oubliez l'étonnement initial à la vue des petits visages amusants et des scènes cocasses. On a là l'Iliade de l'Europe du Nord-Ouest, le roman graphique de Beowulf, les sagas islandaises illustrées. C'est aussi une préfiguration de Bosch, de Goya ou d'Ansor. C'est du Tolstoï et du Tolkien du XIe siècle. J'ai une passion sans borne pour cette première période du Moyen-Âge. Les 5 siècles d'occupation romaine qui l'ont précédée, bouf. Avec leurs amphores, leurs toges et leurs vomitoires, pas vraiment mon truc, cette frivolité, cette habitude de vomir après les repas. J'ai toujours trouvé bien plus intéressant les Dark Ages qui ont commencé après l'an 500. Plus confus, plus agité, plus difficile. Une époque de migration, de tiraillement, d'honneur et de violence. L'Europe est plus que ces traditions gréco-romaines ou judéo-chrétiennes auxquelles aiment tant à se référer des personnes distinguées, leur verre de Pinot Grigio à la main. Elle est tellement plus que l'influence de civilisations méditerranéennes raffinées, urbanisées, qui connaissent l'écriture. L'Europe, c'était aussi purement agraire, elle était païenne, belliqueuse, masculine, parasée, buveuse de bière, sensible à la question de l'honneur. Une Europe sans ville ou sans bâtiments de pierre, mais faite de mousse, de tourbe, de bois et de cuir. Venteuse et froide. C'est un substrat primitif. Il était déjà apparent à l'âge du fer, au premier millénaire d'avant notre ère. Et il ressurgit après le départ des Romains et l'éruption des Germains. En Scandinavie et en Irlande, des régions qui n'ont jamais été romanisées, l'âge de fer et le début du Moyen-Âge s'enchaînent sans transition, malgré l'avènement de la chrétienté. Alors, les Normands de la tapisserie de Bayeux, ils descendent des Vikings, bien sûr. Ils s'étaient installés dans l'ouest de la France et s'apprêtaient à mettre la main sur l'île d'en face. Regardez les épées et les hallebardes et les harnais des chevaux. Regardez les coiffures et les vêtements, les aliments. Regardez les bateaux en cours de construction. C'est un selfie de l'âge du fer. Pourtant, on est bien en 1066. Même la comète de Halley, qui est apparue cette année-là, est représentée. Les inscriptions sont en latin, ou ce qui devait passer pour du latin. Hic est Wilhelm Dux. Voici le roi Guillaume. Un évêque les accompagne à cheval. Encore un signe de modernité. Quoique, il combat tout simplement avec eux. Et comme il n'a pas le droit de verser le sang, il se bat non pas avec une épée, mais avec un gourdin. Et l'hypocrisie a toujours existé. Être normand et chrétien, ce n'était pas forcément simple. On ne se lasse pas de regarder la tapisserie de Bayeux. La laine a été teinte en utilisant des extraits de plantes. La garance, la gaude, le pastel, rien que ces noms-là déjà. Quel monde ancien, lointain. Plusieurs personnes y ont travaillé simultanément. En Angleterre, en Normandie, des hommes, des femmes, en silence, en bavardant. Nous n'en savons rien. Et 2 ans après la bataille, ça y est, elle était prête. Pendant la Révolution, en 1792, la longue bande de toile faillit être découpée pour servir de bâche à un chariot de ravitaillement. Si un médecin m'annonçait que je n'avais plus que 3 mois à vivre, je ne planifierais plus un grand tour du monde. Je voudrais savourer la compagnie d'amis et de proches, lire de la poésie et partir un week-end à Bayeux. Parce que ce qui défile là-bas, sur cette toile, c'est plus que la violence, la noblesse, les chevaux, plus que le triomphe et la soif du pouvoir. Ce qui passe sous vos yeux tout au long de ces 70 mètres n'est rien d'autre que le combat que mène l'être humain avec lui-même. Et au point de croix. Pour finir, et parce qu'on est à la radio, bien sûr, une ode à l'écoute.
Il était près de 16 heures. Peut-être était-il temps pour moi de prendre mon petit déjeuner. Si le but était de mener une nouvelle vie plus raisonnable, cela s'annonçait mal. La veille au soir, j'étais rentrée de Paris après une dernière journée où j'avais enchaîné les entretiens. À présent, j'allais m'efforcer de retrouver une certaine profondeur. Je passe 1 an à Berlin pour travailler en toute tranquillité. Je suis sortie et j'ai pris conscience que je n'avais rien mangé depuis l'encas pris à Orly. Calme, pureté, régularité, pas encore tout à fait. De toute façon, qui avait eu le moindre appétit pendant cette nuit, la plus pénible de 2016. Je ne m'étais pas couchée avant 5h30. J'avais déjà écrit un premier texte que j'avais posté sur Facebook. Mon éditeur, avec qui j'avais échangé des messages sur WhatsApp toute la nuit, l'a évoqué plus tard en disant que c'était le plus sombre que j'ai jamais écrit. Je suis sortie et j'ai traversé, dit Brücke der Verrückte, le pont des fous. C'est ainsi que ces derniers mois, j'appelais le pont reliant ma partie de Berlin au centre-ville. Il y avait toujours un fou égaré qui criait ou marmonnait sur le pont du Kurfürstendamm. J'ai vu un peu plus loin, près de la station Allensee de la S-Bahn, le vilain stand jaune d'Imbiss Frankie. J'y étais allée une fois, surtout par intérêt ethnographique. Bon, ai-je soupiré, pourquoi pas? Voilà ma résolution de manger moins de viande qui partait en fumée. La dame a poussé vers moi la saucisse au curry, en me décochant un sourire, et tandis que j'enfonçais ma fourchette dans ce champ de bataille qu'on appelle ici « délicatesse », je l'ai entendu demander à un client régulier en imperméable « Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Trump ?» Elle avait posé sa question en ouvrant de grands yeux enthousiastes d'enfants qui franchissent pour la première fois le portail d'un parc zoologique. L'homme a à peine levé les yeux au-dessus du col de son imperméable. « Je suis choqué », a-t-il marmonné à l'intention de sa boulette de viande sur le petit carton qu'il tenait d'une main. « Vraiment ?» a répondu la propriétaire du snack bar, les yeux encore plus écarquillés. « Moi, je trouve ça bien. »« Mon Dieu, me suis-je dit, en tripotant du bout de ma fourchette le pain spongieux. Faut-il vraiment que j'entende ça ? Suis-je obligé d'écouter la fin de cette conversation ?» Quand on voit que tant de gens aux États-Unis n'ont même pas de quoi se payer le médecin. Ah, ça commence bien, avais-je envie de crier. C'est pourtant bien pour ça que s'est battu Obama il y a 8 ans, en douille. C'est Obama qui voulait rendre plus accessible cette assurance médicale qui coûte si cher aux États-Unis. C'est Obama qui trouvait qu'un soupçon de prestation de santé ne pouvait pas faire de mal dans ce pays rongé par le capitalisme casino où il y a tant d'inégalités et de pauvreté. Enfin, bon sang, ça s'appelle l'Obamacare, toute cette histoire, pas le Donald Care. Parce que Donald doesn't care. Tout qui l'intéresse, le Donald, c'est de savoir où on va suspendre son portrait kitsch financé par sa fondation philanthropique. D'ailleurs, les républicains qui viennent de remporter les élections ont à peu près tout à fait ces 8 dernières années pour bloquer et saborder la réforme du système de santé. Et ce Trump, cette misérable créature que vous encensez maintenant, a littéralement promis de supprimer tout le système. Alors vous faites quoi, là, avec vos saucisses grillées et vos berlingots de Capri Sun ? Pour un peu, je serais allée crier moi-même sur le pont des fous. Mais je n'ai rien dit, bien sûr.
Eh oui.
On coupe au milieu, c'était
l'écoute à Berlin. Et peut-être aussi, justement, l'écoute de ceux qui ne pensent pas comme nous. Mais nous y reviendrons une autre fois. Et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.